Je pense que je vous ai déjà dit que lorsque j'étais petit, durant l'été, ma maman avait l'habitude de nous prendre à part, ma sœur et moi, au début de la journée, avant qu'on sorte dehors pour aller jouer, profiter du beau temps, de la saison estivale. Elle nous prenait à part pour nous faire le catéchisme, une petite leçon là, d'une demi-heure, 45 minutes. Alors, il s'était procuré dans une librairie catholique des livres adaptés aux enfants. Puis, moi, j'aimais ça. Ma sœur, je pense, aimait un peu moins ça, mais moi, j'aimais vraiment ça. Et un beau matin, elle nous avait dit quelque chose qui est resté avec moi pour le restant de mes jours et que je me répète encore aujourd'hui. Elle avait dit, sachez, les enfants, là, qu'il faut éviter de dire des paroles inutiles. Parce que si on dit des paroles inutiles, pour toutes les paroles inutiles qu'on va dire, il va falloir aller au purgatoire. Moi, j'aimais ça quand maman me disait ça parce que je suis pas un grand parleur. Alors, pour moi, c'était comme une consolation de penser que j'allais éviter le purgatoire parce que je parlais pas beaucoup. Maintenant que je suis un adulte, que je suis prêtre et que j'ai étudié beaucoup la théologie, ce que j'entends ici, c'est probablement ce que les religieuses disaient à l'école quand elles étaient petites, là, pour faire taire les élèves, de dire qu'il ne fallait pas dire des paroles inutiles. Vous comprendrez que la raison pour laquelle je vous dis cela, c'est que dans la lettre de Saint Jacques, dont nous entendons des extraits sur une période de 2 semaines, depuis le début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine prochaine, on entend l'apôtre faire l'affirmation suivante qu'il faut mettre un frein à sa langue. Évitons de parler. En réalité, si on regarde le début du texte, les versets un peu plus haut, en fait, c'est pas tant de mettre un frein à sa langue pour simplement mettre un frein à sa langue pour l'amour de la chose, mais bien d'être lent à parler pour être prompt à écouter, ce qui est totalement différent, n'est-ce pas? Et quand on dit écouter ici, et Saint Jacques l'apôtre est très clair, c'est de se mettre à l'écoute du tout autre, hein, c'est-à-dire de Dieu lui-même qui nous parle à travers sa parole, mais aussi, probablement, on peut le dire aussi, être à l'écoute de l'autre, de voir quels peuvent être les besoins de l'autre. Dans l'Évangile, on voit que Jésus a la possibilité, d'une part, d'être à l'écoute de Dieu, son Père, dans la prière. C'est certain, on va le voir comment dans quelques instants, mais aussi d'être à l'écoute de l'autre, des besoins de l'autre, alors qu'il y a un aveugle qui se présente à lui et qui demande d'être guéri. Jésus va le guérir au moyen de 2 gestes. D'abord, au moyen de la salive qu'il utilise sur les yeux de l'aveugle et l'imposition des mains. Alors, c'est une tradition antique de penser que la salive humaine a des vertus curatives et l'imposition des mains est un fait accompli au niveau des miracles qui étaient accomplis même dans l'Ancien Testament, que c'est par l'imposition des mains que la bénédiction de Dieu s'introduit pour l'humanité. Ce sera d'ailleurs repris dans le christianisme. D'ailleurs, plusieurs sacrements dans l'Église sont célébrés au moyen de l'imposition des mains. Il y a tout de même, à la fin de l'Évangile, une affirmation mystérieuse à l'effet que Jésus dit « ne rentre même pas dans le village une fois qu'il l'a guéri », et quand, pour le guérir, il l'amène hors du village. C'est la seule fois dans les évangiles qu'on voit Jésus dire, l'évangile selon Saint Marc est le seul à avoir cette attitude par rapport au village et aux villes, comme une espèce de suspicion. Et c'est aussi le seul cas, cet cas de guérison, où Jésus doit s'y prendre à 2 fois pour guérir quelqu'un. J'ai lu un commentaire à l'effet que c'est peut-être une image de ce qui va se produire aussi pour les propres disciples de Jésus, auxquels Jésus n'arrête pas de dire « ne dites pas à personne que je suis le Messie », parce que ça va prendre du temps avant que les disciples comprennent. Est-ce que cet aveugle-là qui ne voit pas est un peu une représentation des disciples pour qui il va falloir plusieurs fois? Donc, Jésus s'y reprend à deux fois pour le guérir. Mais revenons à cette idée là, d'éviter la ville. Mais pourquoi donc éviter la ville? Pourquoi donc éviter le village? Pourquoi? Pensons-y. Quand on va dans les plus grandes villes, est-ce qu'on n'est pas un peu parfois renversé et dépassé par toute l'information qui circule autour de nous? Les plus grandes villes, Montréal, Toronto, New York. Quand on va dans ces villes-là, à un moment donné, c'est comme il y a tellement de choses à voir que finalement, on n'a plus le temps, on n'a plus d'attention pour prêter de l'attention à ce qui compte le plus, qui est Dieu, le tout autre, et les besoins de l'autre aussi. Parce que notre pensée est tellement nourrie par toutes sortes d'autres images qu'on est comme dérangé. D'ailleurs, regardez comment, dans la première lecture aussi, la toute fin de la première lecture, Saint-Jacques indique comment on reconnaît le bon comportement religieux. Alors, il dit, il faut se garder pur, sans souillure, il faut visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder sans tache au milieu du monde. On peut penser ici que le monde auquel Jacques fait allusion est à peu près probablement la même idée que Jésus veut exprimer dans l'Évangile selon saint Marc, ou qu'on retrouve aussi dans l'Évangile selon saint Jean, quand Jésus va dire à ses disciples, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Ou c'est comme pour leur dire que ce monde passe. Alors, ne prêtez pas trop d'attention à ce monde-ci, mais prêtez plus d'attention au monde qui vient. Je trouve ça intéressant de penser que pour vraiment plaire à Dieu, il faut être capable de se mettre à l'écart. Ou comme on le dit dans l'antienne du psaume, là, d'aller habiter la montagne du Seigneur. Parce que dans la montagne, on est vraiment seul à seul avec Dieu. Et n'est-ce pas intéressant que, alors qu'on nous propose un synode sur la synodalité, l'image qui nous est proposée pour réfléchir ensemble sur la synodalité, c'est d'être à l'écoute de l'autre. On ne fait pas nécessairement allusion au fait qu'il faut éviter les villes ou aller seulement en campagne, mais l'idée qui est proposée est celle de marcher. Il ne faut donc pas s'arrêter. Si on est en ville, on passe à travers la ville. On cherche ceux avec qui on marche à côté de nous. Si on est en campagne, on marche dans les concessions, on cherche qui nous accompagne sur le chemin et on est à leur écoute pour discerner ce que le Seigneur voudra bien nous dire. Voilà un beau programme qui nous prépare à ce synode. Celui de marcher dans l'écoute avec l'autre et le tout autre, notre Seigneur. Amen.